Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question de Donald Trump qui courtise les protestants évangéliques. Effectivement, le Journal de Montréal nous révélait qu'il sera de passage au Liberty University pour tenter de séduire l'électorat évangélique. C'est ce que nous apprend effectivement l'agence France-Presse dans un article intitulé « Donald Trump, les chrétiens évangéliques dans la mire du milliardaire ». Heureusement, mesdames et messieurs, les étudiants de cette prestigieuse université ne se laisseront pas séduire facilement. Voici ce que nous rapporte le Journal de Montréal à cet effet en publiant un article de l'agence France-Presse. L'annonce de sa venue, qui coïncide avec la journée commémorant le leader des droits civiques, Martin Luther King, a provoqué le scepticisme de nombreux étudiants qui ont annoncé qu'ils manifesteraient devant l'établissement pour afficher leur désaccord. Et l'article poursuit en disant ceci. Donald Trump n'a a priori rien pour séduire les évangéliques qui donnent historiquement leur voix à des candidats conservateurs sur les questions sociales. Effectivement, mesdames et messieurs, notre vote doit correspondre à nos valeurs. Trop de questions, trop de votes sont donnés chez les évangéliques en particulier. Ils sont donnés en fonction de la personnalité du chef, en fonction de la préférence fiscale, en fonction de l'option constitutionnelle, par exemple si on est fédéraliste ou indépendantiste. Mais en bout de ligne, tout ça, c'est stérile. Vous allez dire, oui, mais là, tu t'adresses uniquement aux évangéliques. Non, moi, je crois que tout citoyen doit voter en fonction de ses valeurs. C'est quoi des valeurs? C'est un comportement, c'est une idée, c'est un concept qu'on priorise, qu'on met en haut de l'échelle. C'est pour ça qu'on appelle ça une valeur. Ce qui a de la valeur pour nous, ce qui est en haut de l'échelle. Par exemple, la liberté, pour moi, c'est une très grande valeur. C'est ça qu'on doit mettre en haut de l'échelle. Ma mère m'a toujours dit... On est dans un pays libre. Mais si on est dans un pays libre, on a le droit de pouvoir exercer cette liberté. Quels sont nos points de repère en tant qu'électeurs? Mais si vous êtes de foi théiste, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament nous révèle quoi? La question de la pauvreté, ça n'appartient pas à l'État, mais à l'Église et aux chrétiens, aux individus. Et c'est pourquoi que la sagesse nous enseigne quoi? Nous enseigne que plus l'impôt est élevé, moins les gens sont généreux. C'est du moins ce que argent.canoë.ca nous révèle et également la plateforme affaires avec un s.lapresse.ca. Ensuite, la Bible nous dit dans les Proverbes, là, les Proverbes c'est un livre qui enseigne la sagesse, dans Proverbes 29.4, Salomon nous dit « Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui multiplie les impôts le ruine ». Alors, si le pays adopte des politiques fiscales qui vous sont chères, mais que l'Église est privée de liberté, est-ce qu'on est avantagé? Encore une fois, parce que cette émission s'adresse aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi. Les citoyens de bonne foi vont dire « Oui, mais là, tu t'adresses juste aux gens de foi. » Non, mesdames et messieurs, parce que, savez-vous quoi? Justement, les gens de foi contribuent à ce qu'il puisse y avoir de sains débats. Les gens de foi empêchent les citoyens de bonne foi de frapper des murs dans bien des cas. Par exemple, si vous êtes en voiture, puis que le conducteur est distrait, puis il y a une courbe, et puis le passager dit hey, « fais attention, il y a une courbe », eh bien, le conducteur va ralentir. Eh bien, c'est un peu ça la voix des gens de foi. C'est pour lancer des alertes, lancer des signaux pour dire hey, « un instant, ça nous concerne tous ». Parce qu'au bout de la ligne, nous sommes tous des citoyens. Et si la liberté des uns est préservée, eh bien, ça va avoir un impact sur la liberté des autres. Maintenant, une autre question que je dois me poser. Est-ce que le parti pour lequel je vote s'oppose aux subventions aux écoles privées confessionnelles? Parce que l'école ne doit pas appartenir à l'État, elle ne doit pas appartenir aux corporations, elle doit appartenir aux parents. L'État met à la disposition des parents un système pour accompagner leur enfant. Mais les actionnaires de ces écoles, ça doit demeurer les parents. Et donc, on doit veiller à ce que l'école puisse être accessible à tous, non pas seulement au niveau public, mais également au niveau de la culture de l'école. Et donc, moi, je crois que les subventions aux écoles privées confessionnelles doivent demeurer. Est-ce que, par exemple, l'État est favorable à la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté d'expression, où on veut de plus en plus museler les groupes religieux théistes? Et ça, c'est important. Est-ce que le parti pour lequel je vote veut réduire les privilèges octroyés aux groupes religieux sur le plan fiscal? Vous allez dire, ah oui, mais là, pourquoi les groupes religieux auraient des avantages? Parce que ça produit des bienfaits. Le nombre de couples, le nombre de familles, le nombre d'individus qui sont demeurés, comment je pourrais dire ça, qui contribuent à la cohésion sociale. Vous ne réalisez pas tout le bienfait que les groupes religieux font. Vous, parce que vous entendez dans les médias seulement les mauvais côtés, vous ne voyez pas l'envers de la médaille. Et ça, c'est important de le considérer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des plateformes comme le 92,7 FM pour mettre en valeur ce qui se passe, mettre en valeur nos idées et puis défendre nos droits. Je continue avec l'article du Journal de Montréal. Donald Trump n'a a priori rien pour séduire les évangéliques qui donnent historiquement leur voix des candidats conservateurs sur les questions sociales. Et ça, c'est important. C'est important. Moi, ce qui est plus important avant la question fiscale, avant toute autre question, c'est nos valeurs. Et ici, Donald Trump, même s'il veut séduire, veut tenter de séduire l'électorat évangélique, il ne se positionne pas de façon à ce que... Il ne se positionne pas de façon à gagner des votes parce que ses valeurs sont assez différentes des nôtres. Et l'article poursuit en disant ceci. Près de deux tiers d'entre eux disent, par exemple, que la position sur l'avortement oriente grandement leur décision au moment de glisser l'enveloppe dans l'urne. Jusqu'à tout récemment, pourtant, Donald Trump se disait totalement favorable au droit à l'avortement. Donc, voyez-vous, il diffère des évangéliques à cet effet, parce que deux tiers des évangéliques se posent la question avant de voter, est-ce que le candidat pour qui je vote est favorable ou défavorable à l'avortement? Il n'y a pas seulement la question de l'avortement, il y a toutes les questions qui entourent la famille, par exemple, les malaises qu'on peut avoir face à la pratique homosexuelle. Et maintenant, on se doit d'avoir un respect envers les individus. Là où est-ce qu'il y a notre malaise, c'est dans leur pratique. Et maintenant, on veut tout simplement avoir le droit de l'affirmer. Et non pas c'est pas un droit de lancer des pierres sur ces gens-là. Et c'est là qu'il faut faire la distinction. Il faut faire attention à la mauvaise presse qu'on peut faire aux évangéliques à cet égard. Et aussi, l'article nous dit, son mode de vie, sa personnalité, diamétralement opposée aux valeurs morales évangéliques, n'aide pas non plus. Effectivement, il n'y a pas nécessairement une cohérence directe entre les valeurs et le comportement de M. Trump et ce que les évangéliques recherchent chez un aspirant à la présidence américaine. On va dire également qu'un Américain sur quatre est évangélique, donc c'est un vote vraiment crucial à obtenir. Il est presque obligatoire pour un républicain d'avoir leur soutien, explique Lydia Bean, professeure de sociologie à l'Université Baylor et auteure de la politique de l'identité évangélique. Alors, un Américain sur quatre. Mais vous allez me dire, oui, mais nous, on est moins d'1% de la population, les évangéliques au Québec. Est-ce qu'on peut avoir un impact? Est-ce qu'un jour, par exemple, des candidats qui aspirent à être premier ministre du Québec, des candidats à la chefferie d'un parti vont venir nous courtiser? Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs? C'est là qu'on se trompe. On se trompe à cause des guerres de chiffres. Oui, c'est vrai qu'on est moins d'1%. Mais savez-vous que le lobby LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, sont à peine 2% de la population. C'est pas beaucoup, beaucoup plus là, en termes de pourcentage. Écoutez, selon les données les plus récentes de Statistique Canada, environ 2% des Canadiens s'identifient comme étant homosexuels ou bisexuels. Et pourtant, ils ont réussi en moins de 15 ans à obtenir l'union civile, le mariage gay, l'adoption des enfants pour les conjoints de même sexe, des subventions pour des changements de sexe. Ils ont travaillé pour modifier la charte des droits et libertés et le code criminel pour ajouter qu'on ne peut plus discriminer l'identité et l'expression sexuelle. Auparavant, c'était uniquement l'orientation sexuelle. Puis c'est pour ça qu'en Ontario, on peut s'identifier sous l'autre sexe sans avoir subi l'opération. Ce que ça veut dire, c'est qu'en Ontario, sur mon permis de conduire, si moi j'étais un résident ontarien, si j'étais un résident de l'Ontario, je pourrais tout simplement remplir un formulaire, payer 37 $ et dire maintenant Éric Lantier, sexe féminin. Je n'ai pas besoin de passer par l'opération, je n'ai pas besoin de passer d'entrevue, je vais tout simplement remplir la formalité. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont travaillé fort pour qu'on ne puisse pas discriminer sur la question de l'identité et l'expression sexuelle. Même si physiquement, je suis un homme, mais je me sens une femme, je peux désirer qu'on me considère comme une femme. Et donc, ce que cette dame-là, ici, Lydia Bean, qui est professeure de sociologie à l'Université Baylor, ce qu'elle nous dit, ce qui est rapporté par le Journal de Montréal, qui a été écrit par l'agence France Presse. Voici ce qu'elle dit. « Ce qui est intéressant, reprend-elle, c'est qu'il n'y a absolument aucun argument à faire valoir, en parlant de Donald Trump. Il n'a aucune légitimité à se poser en leader chrétien. En coulisses, les leaders évangéliques ne le soutiennent pas. Mais le problème, c'est que l'article va dire plus loin qu'il y a 35 % des évangéliques, selon un sondage NBC News SurveyMonkey, qui songent l'appuyer. » Et donc, lui va profiter de ça pour aller chercher le maximum de votes chez les évangéliques, puisqu'il représente une force potentielle. Le problème, c'est que la force des évangéliques, c'est leur faiblesse, c'est la décentralisation. Et pourquoi qu'il y a un peu plus d'un tiers des évangéliques qui songent à le supporter? À cause de ses déclarations anti-islamiques, anti-musulmanes. Et le problème, c'en est un problème, ça, mesdames et messieurs, parce que souvent, et j'entends souvent des évangéliques parler contre les musulmans et quand on fait référence à des attentats terroristes qui sont exercés par des islamiques, eh bien là, j'entends des évangéliques dire « Ouais, mais là, il serait temps qu'on fasse de quoi, puis que le gouvernement mette ses culottes, puis tout ça, puis patati patata. » Moi, je dis une chose, qu'il faut faire attention, il faut démêler les cartes. La question d'identité et de sécurité, pour moi, c'est crucial. Pour moi, c'est une valeur. On doit mettre ça dans le haut de l'échelle. Peut-être pas la valeur numéro un, mais dans les grandes valeurs. C'est important. Si une société met pas d'accent, met pas de valeur, ne valorise pas la sécurité publique, on a un danger ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut faire la distinction entre notre protection, la sécurité publique et l'identité des gens, parce que ça a un lien, c'est un lien important entre la sécurité et l'identité. Maintenant, moi je distingue sécurité et identité avec liberté. Liberté d'expression, liberté de religion, liberté de conscience. Parce que si on commence à limiter la liberté de religion d'un groupe en particulier, Sur quelle base on s'appuie pour enlever des droits? Sur quelle base on s'appuie pour restreindre les libertés? C'est pour ça que moi, je mets une ligne. Sécurité, identité, ça appartient au gouvernement. Liberté de religion, liberté de conscience, liberté d'expression, ça appartient à l'individu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Avant d'appuyer Donald Trump, qui lui est candidat à la chefferie du parti républicain, donc avant de l'appuyer, les Américains devraient faire attention et s'assurer que les répercussions de ces positions ne puissent pas les amener à perdre eux-mêmes des libertés. Et donc, mesdames et messieurs, c'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est le blogueur @ericlantier.net, le blogueur @ericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net, c'est le www.ericlantier.net. Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!